Donc je vais changer complètement de sujet par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est un modèle par lequel un tissu sentait sa taille et adaptait ses paramètres à la façon dont il sentait sa taille. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler de cellules souches et de différenciation cellulaire. Et je vais faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire que je vais me focaliser sur un travail particulier et sur un organe particulier. Parce que d'abord c'est celui que je connais le mieux, qui est l'intestin. Ensuite parce que la division cellulaire est particulièrement importante, vous renouvelez toutes les cellules de votre intestin en 5 jours. Et puis parce qu'il y a un travail qui me paraît une approche physique très belle sur les cellules souches dans l'intestin dont je voudrais vous parler. Donc j'ai appelé ce cours « Cellules souches et différenciation dans l'intestin ». Le point de départ, c'est que dans un tissu, il y a plusieurs types cellulaires et que chacun de ces types cellulaires a une fonction précise. Et puis, en plus de ces types cellulaires qui ont une fonction précise, il y a des cellules particulières qui sont les cellules souches. Les cellules souches ont deux fonctions qui sont le maintien du tissu et la réparation du tissu. Alors la façon dont ça se passe, c'est que les cellules souches peuvent se différencier, c'est-à-dire à partir de leur statut de cellules souches, elles peuvent se différencier en d'autres types cellulaires, parfois en plusieurs étapes, et remplacer les cellules du tissu pour faire des cellules avec les bonnes fonctions. Typiquement, la façon dont ça se passe, c'est qu'une cellule souche, S, elle va pouvoir se différencier en des cellules, alors je ne connais que le mot anglais, et je ne connais pas le mot français, qui s'appelle les Transient Amplifying Cells. Et puis les cellules Transient Amplifying Cells vont se différencier elles-mêmes dans ces cellules de plus en plus spécialisées pour arriver, alors je vais dessiner qu'une étape, hein, mais pour arriver à des cellules totalement différenciées que je vais appeler F. La question qui va se poser, c'est si les cellules souches se différencient, c'est plus des cellules souches, et il faut maintenir le pool des cellules souches dans l'organe pour que les cellules souches puissent jouer leur rôle en permanence. Donc ce que je veux discuter, c'est comment se renouvellent les cellules souches dans l'intestin. Alors il faut que je vous parle de l'intestin. Je vais faire ça en vous montrant un film. Alors c'est un film qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Hans Clevers. J'allais dire c'est... Comment ?
Il n'a pas volé son nom.
Oui, il n'a pas volé son nom, comme dit Jacques. J'allais dire que c'est certainement un des scientifiques phares du domaine. C'est Daniel Louvard, le directeur de la recherche à Curie, qui m'a introduit aux travaux d'Hans Clevers. Daniel est un scientifique qui a travaillé beaucoup sur l'intestin et qui m'a dit « Ouais, il n'y a pas de souci, il nous a tous largués, et moi le premier ». Et pourtant, ce n'est pas son genre de faire des commentaires comme ça. Donc c'est vraiment un monsieur qui a travaillé dans beaucoup de directions. Je vais en parler aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu aussi la semaine prochaine, puisqu'il est aussi à l'origine de ces systèmes qu'on appelle des organoïdes. Donc je vais vous montrer ce film sur l'intestin qui montre très brièvement la structure de l'intestin que je ne vais pas décrire du tout. J'en dirai juste un mot après, et puis qui montre un peu comment les cellules se renouvellent dans l'intestin. Alors ce que vous voyez là, ce tube, c'est l'intestin. Vous voyez l'intérieur de la surface de l'intestin, puis ces cercles-là, c'est les muscles qui peuvent permettre de contracter l'intestin. Si on se rapproche de la surface, il y a ces espèces de doigts qui s'appellent des villi qui sortent de la surface de l'intestin. Typiquement, la taille d'un villi, d'un villus, c'est 200 microns, et la distance entre villi, c'est 200 microns. Ici, ils font un réseau carré, à peu près exactement carré. C'est absolument magnifique, hein, l'ordre est presque parfait. Et puis, entre les villi, vous avez les cryptes qui sont schématisées ici. Et les cellules souches dans l'intestin sont à la base des cryptes. Alors, vous allez voir les cellules souches. Celle-là est marquée en bleu. Et puis, elle va se différencier pour produire des cellules non différenciées. Et puis, quand les cellules se divisent, toutes ces cellules migrent. Elles migrent de la base de la crypte jusqu'en haut du villus. Il y a des cellules qui ont des couleurs différentes, parce qu'il y a plusieurs types cellulaires dans les cryptes de l'intestin. Et vous voyez qu'à partir des divisions qui se font en bas, toutes les cellules montent vers le haut. Ici, il y a deux types cellulaires, les entérocytes et puis les cellules gobelettes. Donc là, on sort de la crypte et on passe dans le villus. Et puis les cellules vont migrer jusqu'en haut du villus. Elles arrivent en haut, et là, elles sont extrudées. Vous voyez une image ici, elles sont éjectées, et elles meurent en haut. Donc on a une structure où c'est les cellules souches qui sont en bas qui régénèrent des cellules qui sont ce que j'ai appelé ces transient amplifying cells. Ces cellules-là se divisent, en divisant elles poussent les autres cellules vers le haut. Il y a une migration des cellules du bas vers le haut. Alors je vais arrêter ça parce que c'est pas ce que je veux vous montrer. Hein. Ça explique comment.
Les vitesses.
Comment ?
Les vitesses de migration.
Les vitesses de migration, alors j'ai un peu oublié, c'est de l'ordre de la journée pour plus que quelques heures pour passer du bas en haut. Je vais vous le repasser. Donc je vais essayer de vous. Je vous ai parlé des. Je vous ai montré les villi au début. Je vais essayer de vous montrer les cryptes. Alors j'ai pas de pointeur si. Vous pouvez avoir un pointeur, ça m'aiderait à les montrer. Et puis je vais aussi vous montrer que si vous regardez la dernière image, il y a des cellules souches, évidemment, il y a plusieurs cellules souches à la base de la crypte. Et vous, vous allez voir qu'en haut du villus, il y a deux flux de cellules qui arrivent. Il y en a un qui est marqué en rouge et un qui est marqué en bleu. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est qu'on sait marquer, enfin, on, pas moi, hein, les biologistes, savent marquer les cellules souches une à une de couleurs différentes, enfin de couleurs, avec des marqueurs différents, et puis que ce marquage se transmet aux cellules filles, et c'est ces cellules filles qu'on voit qui se transmettent jusqu'au bout. Donc je repasse le film, et puis je vais essayer de vous indiquer quand on voit les cryptes. Donc ça, c'est la surface interne de l'intestin. Ici, on voit les villi. Et vous voyez le réseau carré, là. Et quand on fait des analyses, il est vraiment extrêmement carré. Et puis, entre les villi, c'est là qu'on le voit. Là, on voit un trou. Et ce trou, c'est une crypte qui plonge dans la direction opposée. Merci beaucoup. C'est celui-là. D'accord. Donc, voilà la crypte, ici. Et le sommet du villus est de l'autre côté, là-bas. Vous avez ce transient amplifying qui est l'endroit où les cellules se divisent beaucoup. Les cellules souches sont localisées là. Alors voilà le type de marquage que je suis absolument incapable de contrôler. Et puis toutes les cellules qui sont issues de cette cellule souche-là, les filles, les petites filles, etc., sont toutes marquées de la même couleur, avec le même marquage que la cellule souche originale. Donc on arrive à marquer comme ça ce que les gens appellent le clone d'une cellule souche, qui sont toutes les cellules souches qui sont issues d'une même cellule souche originale. Voilà les différents types de cellules de l'intestin que je n'ai pas trop envie de commenter, donc que je ne suis pas très capable de commenter. Et quand on arrive en haut du villus ici, ça, c'est les cellules souches qui viennent de ce côté-là, mais il y a les cellules souches qui viennent de la crypte à côté et qui arrivent en haut du villus qui est là. Donc on arrive à les suivre, et ce qu'ils arrivent à mesurer, c'est la taille des clones. Donc c'est ça la variable qui va être utilisée, qui est la taille des clones. Alors la question, donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est je veux regarder un état stationnaire de l'intestin, et il faut que dans un état stationnaire, c'est assez précis, hein, vous allez voir que le nombre de cellules souches est assez bien défini, et dans cet état stationnaire, il faut maintenir le nombre de cellules souches. Alors il faut le maintenir soit exactement, qui est ce que les gens ont pensé pendant longtemps, et tout l'enjeu de ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est comment on maintient l'équilibre, le nombre de cellules souches dans chaque crypte, c'est-à-dire pas en moyenne sur les cryptes, hein, dans chaque crypte, je vais vous expliquer qu'il y en a 16 qui sont importantes, il faut maintenir ce nombre de façon statistique au cours de la vie de l'intestin. Alors, je vais commencer par discuter le renouvellement des cellules souches. Et d'abord, je vais essayer de vous montrer pourquoi il y a trois modes de renouvellement des cellules souches. Alors, pour renouveler les cellules souches, il faut qu'elles arrivent à produire les cellules que vous avez vues, qui sont les transient amplifying cells, mais il faut qu'elles arrivent aussi à produire des cellules souches. Quelque part, ça veut dire qu'au moins en moyenne, il faut qu'il y ait une espèce de division asymétrique qui à la fois assure la différenciation et assure le renouvellement des cellules souches. Ce qui est un peu plus subtil, c'est qu'il peut y avoir une division qui est bêtement asymétrique. Alors, c'est ce qui est montré sur cette image-là. Donc, voilà le fond des cryptes, voilà deux cellules souches. Cette cellule souche-là, elle se divise de façon asymétrique. Ça veut dire que quand elle se divise, elle produit une cellule souche et elle produit une cellule qui n'est pas une cellule souche. Alors ce mécanisme-là, il assure exactement ce que je voulais parce qu'à chaque fois qu'une cellule souche se divise, elle est remplacée automatiquement parce qu'elle produit une cellule souche aussi. Donc le nombre de cellules souches dans ce modèle-là est parfaitement constant. Si je mets un label sur la cellule souche, je vais avoir des arbres ici qui qui vont tous avoir la même couleur et qui vont rester constants, qui ne vont pas disparaître et pas envahir les arbres voisins. Ce qui est plus subtil, donc ça c'est chaque division est asymétrique. Et puis il y a une deuxième façon de le faire qui est ce que Ben Simons, puisque c'est sur lui que je me suis basé ses travaux, appelle l'asymétrie de la population. Alors, dans ce mécanisme d'asymétrie de la population, les cellules souches se différencient, donc il y a des différenciations. Alors, la différenciation, c'est ce mécanisme-là, et elles se divisent. Quand elles se divisent, elles produisent deux cellules souches. Et donc c'est des divisions symétriques. Donc ce mécanisme-là, hein, je pars d'une cellule souche, et ça donne deux cellules souches. Ce qui est un tout petit peu plus subtil, c'est qu'il y a deux façons de faire ça. Il y a une façon autonome. Autonome, c'est dire qu'il y a une probabilité 50% de faire ce mécanisme-là, et il y a une probabilité 50% de faire ce mécanisme-là. Donc chaque cellule souche, de façon aléatoire, mais avec une probabilité qui doit être exactement égale à 1/2, se différencie. Quand elle se différencie, elle disparaît du pool des cellules souches. Mais comme elle va se diviser avec la même probabilité, elle réapparaît dans le pool des cellules souches. Ça, c'est un mécanisme qui est complètement autonome. Je vous expliquerai à la fin que ce mécanisme-là, il existe, notamment pour les cellules de la peau. Et puis, il y a un mécanisme extrinsèque Alors, ce mécanisme extrinsèque, c'est un mécanisme où quand une cellule souche se différencie, c'est-à-dire quand elle passe du statut de cellule souche à ce statut-là, elle induit une division des cellules souches, et cette division-là va remplacer la cellule souche qui a disparu dans le tissu. Alors, en moyenne, c'est la même chose, mais les fluctuations ne sont pas pareilles dans les deux mécanismes, et c'est ce mécanisme-là qu'on appelle la dérive neutre intrinsèque. C'est ce mécanisme-là que je vais essayer de discuter quantitativement. Alors pour ça, je vais suivre une série d'articles qui ont été faits par Ben Simons. Et Alan Klein. Alors Alan Klein, pour ceux qui, comme moi, ont travaillé longtemps dans les polymères, c'est le fils de Jacob Klein, qui est à l'Institut Weizmann et qui fait des expériences de mesure de force avec des machines d'Israël Ashvili. Il a fait sa thèse avec Ben Simons, et c'est en gros son travail de thèse que je vais vous décrire. Il y a toute une série d'articles dans ce travail de thèse. Il y en a un qui est un article de revue et qui est particulièrement simple et particulièrement clair, qui est dans une revue qui s'appelle « Development ». En 2011. Alors, je ne prétends pas que c'est les seuls travaux qui existent sur ce domaine-là. Ce que je prétends, c'est que le traitement que je vais vous montrer, c'est une approche physique qui est très, très subtile et qui est fait vraiment dans l'esprit du physicien, en ce sens que c'est des mécanismes qui sont assez généraux. Donc, on ne cherche pas à expliquer sur chaque cas comment ça va se passer. On cherche des mécanismes généraux. Je vous ai dit qu'il y avait trois façons de le faire. Celle-là, et puis ces deux qui sont ici. Et pour chacune de ces choses-là, vous allez voir qu'il y a des lois très, très générales qui arrivent et qu'on va arriver, comme la semaine dernière, à une espèce d'autosimilarité. Donc, je vais aller un tout petit peu plus loin dans la discussion qualitative, ce que j'ai fait là, et je vais essayer d'analyser. Donc, ce qui est fait, c'est tiré de cet article de revue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe d'abord quand on a un cas où toutes les divisions sont asymétriques et un cas où c'est la population qui est asymétrique. Alors, si toutes les divisions sont asymétriques, une cellule souche va générer un clone. Ce clone, c'est les cellules qui montent le long de la crypte et du villus. Et chaque cellule souche a son clone. Comme quand la cellule souche se différencie avec une probabilité 50%, elle se remplace. La cellule souche, ça va être une cellule souche fille de celle-là. Et le clone, il va garder toujours le même marquage. Donc, si je suis la taille des clones, c'est-à-dire le nombre de couleurs de clones qui apparaît, les clones restent bien individualisés et ils restent de la couleur des cellules souches initiales qu'il y avait. La deuxième possibilité, donc, c'est cette idée d'asymétrie de la population. Vous voyez que si j'ai un clone ici, si cette cellule souche se différencie, ce clone-là n'a plus de cellule souche. ça veut dire que les cellules qui étaient dans ce clone-là, elles vont pareil être poussées jusqu'à la surface, jusqu'au haut du virus. Elles n'ont plus de cellules souches et quand elles arrivent en haut et qu'elles sont toutes mortes, ce clone-là a disparu. Donc dans ce modèle-là, il y a des couleurs qui disparaissent et puis il y a des clones qui ont plusieurs cellules souches parce que quand cette cellule-là va se diviser pour remplacer la cellule qui est partie, elle va se diviser mais dans le même clone que la cellule mère. Donc dans ce mécanisme-là, on part d'une couleur par cellule souche, d'un marquage par cellule souche. Il y a des marquages qui disparaissent à cause de ce mécanisme-là. Et puis, il y a des marquages où il y a plusieurs cellules souches. Évidemment, chacune de ces cellules souches va produire des transient amplifying cells. Et ça veut dire que ces clones-là vont croître plus vite que les autres. Et puis, l'histoire, c'est qu'il y en a un qui va envahir toute la crypte. Et donc, au bout d'un certain temps, alors vous verrez les temps après, là, pour le coup, ils sont assez longs, hein, parce que c'est des mois, la crypte va devenir toute de la même couleur. Ça veut dire que toutes les cellules qui sont dans la crypte vont être issues de la même cellule souche initiale. Et ce mécanisme est entièrement statistique. Ça veut dire que dans les deux mécanismes-là, soit c'est 50-50, soit quand il y a dans le mécanisme intrinsèque, quand il y a une différenciation qui se produit, statistiquement, on va créer une nouvelle cellule souche. Et ça veut dire qu'il y a forcément un autre clone qui va avoir deux cellules souches. Donc voilà, ce que je veux faire, c'est discuter ces mécanismes de façon un peu plus quantitative dans l'intestin, ce qu'ont très clairement montré, vous allez voir que la preuve est absolument superbe, c'est que c'est ce mécanisme-là qui compte. Donc je vais détailler ce mécanisme-là, et à la fin, je vous parlerai un tout petit peu de celui-là, qui a aussi été étudié en détail par ces deux auteurs-là, mais certainement par d'autres aussi. Alors avant de faire ça, je vais vous montrer un résumé de choses qui se passent dans l'intestin. Donc voilà des images qui sont tirées d'un article. Alors je ne l'ai pas écrit là, j'aurais dû. C'est Lopez Garcia et al. Dans Science en 2010. Donc ils ont fait exactement ce que je vous ai dit, ils marquent les cellules souches, ils ne suivent pas les cellules souches une par une, ils suivent les clones, et puis ils ont un petit modèle qui leur relie la taille des clones au nombre de cellules souches dans le clone. Alors je ne vais pas vous montrer ce modèle-là. Donc voilà ici des cellules souches qui migrent vers le haut le long d'une crypte. Ici, toutes les cellules souches n'ont pas été marquées, ici toutes les cellules souches ont été marquées, et elles montent dans les deux cas. Ces figures-là sont moins directement intéressantes pour nous parce que c'est des cellules qui vérifient que dans chacun des clones, il y a tous les types cellulaires qui sont requis. Donc en particulier, il y a ces types qui sont des entérocytes et puis des goblet cells. Ici, vous avez ce qui se passe quand on monte le long de la crypte ou du virus. Donc ici, c'est au fond de la crypte. Alors vous voyez que ces cellules souches-là sont marquées, celles-là ne sont pas marquées. Ça migre vers le haut. À la transition entre la crypte et le virus, vous voyez la largeur du clone ici. Et puis ça migre jusqu'en haut ici. Ce qui mesure, c'est la largeur du clone. Alors, je ne sais plus très bien à quelle hauteur. Ici, vous avez deux cryptes. Celle-là est complètement marquée, donc la crypte est là. Vous avez des villi ici, V, qui entourent la crypte. Celle-là est complètement marquée. Celle-là n'est pas marquée complètement. Donc ce qui mesure, c'est la taille des clones. Et à partir de la taille des clones, ils ont un modèle qui leur permet de déduire le nombre de cellules souches dans le clone en question. Plus le clone est large, plus le nombre de cellules souches est important. Alors voilà la fraction des cryptes monoclonales. Alors il y a énormément de cryptes dans l'intestin, je ne serais même pas capable de vous donner un nombre. Et donc ils font des statistiques sur les cryptes, et ils comptent celles qui, au bout d'un certain temps, sont d'une seule couleur. Et vous voyez que, petit à petit, toutes les cryptes deviennent d'une seule couleur. Donc il y a 100% des cryptes, où une cellule souche a envahi, où le clone d'une cellule souche a envahi toutes les autres. Les échelles de temps, c'est 52 semaines. 52 semaines, ça fait un an. Donc pour faire ces mesures-là, ils ont été obligés de travailler pendant un an. Ça, c'est la fraction de clones qui survivent, alors avec une normalisation qui est un peu plus compliquée. Vous voyez qu'au fur et à mesure, comme il y a une seule crypte qui envahit tout, les clones vont disparaître petit à petit, un par un, et il va rester plus que celui qui est là-haut. Et puis là, il compte le nombre de cellules souches par clone. Donc c'est ça les expériences qu'on veut expliquer. Et j'insiste sur le fait que le travail dont je veux vous parler, il conduit à une interprétation qui est parfaitement quantitative de ce phénomène-là, avec zéro paramètre ajustable. Ici, ça résume ce que je vous ai expliqué, peut-être de façon plus pédagogique. Donc on part de cette situation-là, ils ont dessiné deux marquages différents, hein, qui correspondent à peu près à ce qu'il y a là-haut. Vous avez les bleus et les rouges. Quand il y a une flèche vers le haut, ça veut dire que la cellule se différencie. Donc celle-là, elle s'est différenciée, celle-là s'est divisée. Si celle-là s'est divisée, celle qui a remplacé la bleue, elle devient rouge. Donc on passe de 3 bleus à 2 bleus. Et puis ici, c'est le mécanisme inverse. Celle-là, c'est la rouge-là qui s'est différenciée, la bleue s'est divisée, et dans ce cas-là, c'est la bleue qui envahit la rouge. Et donc ils ont un mécanisme comme ça, où vous avez toutes les cellules souches à l'instant 0, elles ont toutes une couleur différente, puis il y a des remplacements de bleu par des rouges ou de rouges par des bleus, et vous voyez la séquence qu'ils ont simulée ici en unité arbitraire, et au bout d'un certain temps, au bout de 60 étapes, il n'y a plus que des cellules rouges, et c'est ça le mécanisme que je souhaite étudier. Alors, donc je vais essayer d'être un peu plus quantitatif. Oui, Thomas.
J'ai une question, c'est qu'est-ce qui définit le temps zéro? C'est en fait leur marquage, parce que si au bout d'un an...
C'est le moment où ils marquent.
Et donc ils peuvent marquer différemment chaque cellule, indépendamment de leur...
S'ils marquent toutes les cellules souches à l'instant initial, toutes les cellules souches sont différentes, elles vont générer des... indépendamment du fait qu'avant, elles auraient pu être issues de la même cellule souche. Et c'est ça qui...
60 semaines, ils pourraient refaire la même chose, remarquer...
Ils pourraient remarquer là, en considérant que toutes ces cellules souches sont différentes. J'ai bien dit tout à l'heure que je regardais un état homéostatique, c'est-à-dire un état stationnaire du tissu. Et si on remarque toutes ces cellules-là avec des couleurs différentes, on va revoir les couleurs évoluer et on va se retrouver avec une couleur qui a envahi tout le monde.
En ordre de grandeur, ça fait combien
de divisions? La division, c'est au total, un jour ou quelque chose.
Pour une des rouges sur la droite, là, et si je remonte à la mer, c'est U combien de divisions?
Le temps... Pour l'envahissement, c'est l'ordre de grandeur du temps qu'il y a là, c'est 50 semaines.
Oui.
Donc c'est quelques mois, et la division, c'est un jour. Donc ça, c'est le temps que ça prend, et si tu divises, combien il y a de divisions au total, c'est 50 semaines divisé par quelques jours, par un jour. Donc c'est un processus extrêmement lent. Alors ils ne font pas l'expérience que propose Thomas, parce qu'ils ont déjà fait l'expérience pendant un an ici. Mais les temps sur lesquels ils mesurent sont très longs devant les temps de division. Et c'est la seule chose qui est importante pour le modèle.
Je ne crois pas du tout dans ce que racontent les gens qu'une cellule souche peut avoir que 80 divisions.
Si, parce qu'à la fin, ce n'est pas obligé que ce soit les mêmes qui soient là. C'est-à-dire qu'une cellule peut s'être différenciée, puis elle a été remplacée par une cellule du même clone et elle a la même couleur. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas dans ce mécanisme-là une cellule... master, alors ça c'est une chose que Ben Simon écrit très bien, c'est qu'il y a un modèle alternatif, alors qu'on dirait à des statistiques complètement différentes, qui est de dire qu'il y a une cellule souche qui gouverne tout le monde, et puis quand il y en a une qui se différencie, la cellule souche se divise, et puis va remplacer la cellule qui se différencie. Ça donne des statistiques qui n'expliquent pas du tout le résultat expérimental. Et à l'époque, c'était ce mécanisme-là auquel ils avaient comparé. Alors Ben Simons me dit que quel que soit le mécanisme dont on part, ces trois mécanismes-là sont des mécanismes attracteurs et que quelle que soit la cinétique qu'on prend au départ à temps long, on va toujours retomber sur ces trois mécanismes-là. Donc ce que je veux faire, c'est regarder la statistique d'envahissement d'une crypte par une cellule souche. Alors, j'appelais ça distribution du nombre de cellules souches par clone. Donc c'est un problème statistique, hein, puisque toutes les opérations sont statistiques dans cette histoire-là. Donc je vais introduire une quantité que je vais appeler Pn de t, qui est la probabilité qu'un clone ait n cellules souches. Et puis je vais écrire une équation maîtresse pour Pn de t. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment on résout l'équation maîtresse pour Pn de t. Et c'est la solution de cette équation maîtresse qu'on va comparer directement aux résultats expérimentaux. Donc mon équation maîtresse, c'est dPn sur dt. n'y a que deux choses qui puissent se passer. Hein. Il y a des cellules souches qui apparaissent dans un clone. Ça, c'est la division cellulaire qui les fait apparaître. Il y a des cellules souches qui disparaissent dans un clone. Ça, c'est le fait qu'elles se différencient qui les font apparaître. Et mon mécanisme intrinsèque, ce qu'il fait, c'est que le taux de différenciation et le taux de division cellulaire, en moyenne, c'est les mêmes. Donc, je vais écrire que ça, c'est un certain lambda. Alors, je vais écrire la différenciation, c'est Pn plus 1 moins Pn. Parce que si une cellule... Si une souche qui a n plus 1 cellule souche a une cellule qui se différencie, il passe à n cellule souche. Ça veut dire qu'il enrichit le pool à n cellule souche. Et si par contre il y a n cellule souche et qu'il y en a une qui se différencie, elle disparaît, donc il doit y avoir un signe moins. Donc ça, c'est la différenciation. Puis il y a le même lambda, et c'est ça qui est important, fois pn moins pn moins 1. Pn moins 1 moins pn, pardon. Et ça, c'est le mécanisme de division cellulaire. Si vous divisez une cellule souche alors qu'il y en a n-1, vous arrivez à n. Et si vous en divisez à n, vous disparaissez de n, puisque vous êtes passé à n plus 1. Donc ça, c'est la différenciation. Et ça, c'est la division. Alors, ce qu'il faut discuter, bien sûr, c'est les conditions limites. Bon, je vais numéroter les cellules de 0 jusqu'au nombre maximal. Donc, je numérote de n va de 0 à ns. Et il y a deux états qui sont particuliers là-dedans. Il y a l'état 0, parce que si l'état est 0, il n'y a plus de cellules, donc il n'y a plus de division cellulaire. Donc, dans l'état 0, il n'y a plus de division cellulaire. Et dans l'état final, il n'y a plus de cellules qui disparaissent parce qu'il y a un seul clone, et donc ça revient toujours dans le même clone. Et donc ici, la différenciation, il n'y a plus de disparition de cellules. Alors je vais vous faire un petit dessin où je vais tracer un axe. Ça, c'est l'état 0. Ça, c'est l'état ns. Puis j'aurai les états 1, 2, 3, etc. Ce que nous dit l'équation, c'est qu'elles peuvent sauter à l'état voisin. Donc elles peuvent sauter comme ça, peuvent sauter comme ça dans l'état voisin. Et puis l'état voisin peut sauter comme ça. Et tous les taux sont les mêmes. Donc ça se fait avec une probabilité lambda. Ce que je veux maintenant, c'est assurer ces conditions-là, ces conditions limites-là. Il y a une façon simple de le faire, c'est de dire ces états-là, c'est des réservoirs. Ça, c'est les réservoirs où la crypte est complètement envahie par un clone. Et ça, c'est un réservoir où la crypte a complètement disparu. Donc je vais éliminer ces états-là du jeu. Puis je vais dire, quand on arrive là, je vais mettre mon ns ici, je vais considérer comme un réservoir. Quand on arrive là, on saute dans le réservoir. Et de la même façon, je vais éliminer cet état-là. Puis quand j'arrive là, ça saute dans le réservoir. Ce que ça veut dire, ça, c'est que je vais résoudre l'équation en supposant qu'il n'y a pas de cellule au bout des deux côtés. Parce que dès qu'une cellule arrive, je la transporte dans le réservoir. Et puis, je vais compter le nombre de cryptes qu'il y a dans chaque réservoir. Donc, je vais calculer la probabilité d'être dans le réservoir. Ça veut dire que je vais écrire que, ici, c'est alimenté par toutes les cellules qui arrivent à n-1. Elles sautent dans le réservoir. Donc, je vais écrire que dpn sur dt égale lambda qui est de ns-1. Et de la même façon, ici, je vais écrire que dp0 sur dt, c'est lambda. Alors, il y a une autre façon de regarder ce problème-là. Ça, c'est un problème de diffusion sur un réseau. Donc, c'est un problème de diffusion discret où chaque particule, si je dis qu'ici, j'ai une particule, elle peut sauter là, aller sur le site voisin. S'il y a une particule ici, elle peut sauter à côté. Donc, ce problème, c'est un problème de diffusion sur un réseau à une dimension, avec des conditions limites qui sont que dès qu'on arrive au bout, on est absorbé dans le réservoir, donc avec des conditions absorbantes. Alors, ce modèle, il existe dans la littérature, dans des domaines qui sont complètement différents de celui que je vous décris aujourd'hui. Je vais vous en citer deux. Un qui est celui qui a donné son nom à ce modèle, qui s'appelle le modèle Vauter modèle. C'est un modèle où on a une population, elle doit voter oui ou non sur un sujet, et la population peut changer de façon un peu aléatoire d'avis. Chaque individu peut changer de façon un peu aléatoire d'avis. Et dans certains cas, on arrive à ramener le problème à cette équation-là. Ce problème, il a été résolu par un monsieur qui s'appelle Louis Bachelier. Louis Bachelier, d'abord, si vous êtes comme moi un fanatique de PSL, où j'ai passé beaucoup de temps, à PSL, il y a un institut Louis Bachelier, qui est un institut qui travaille sur la finance. En fait, ce monsieur, c'est le premier qui a introduit des idées de mouvement brownien en finance. En gros, c'est un précurseur de Jean-Philippe Bouchaud, qui lui disait qu'il y avait des fluctuations complètement gaussiennes et aléatoires dans les marchés financiers. Jean-Philippe Bouchaud, il fait des choses plus subtiles, il utilise des marches de Lévy et des choses comme ça, mais les premiers modèles de mathématiques en finance ont été faits, étaient basés sur le mouvement brownien et ont été faits par ce monsieur qui s'appelle Louis Bachelier.
Avant qu'Einstein
fasse son papier. Oui, c'était avant 1900. Il y a un autre modèle que les gens de la matière molle connaissent bien, c'est le modèle de Rouse des polymères. Alors ça, c'est un modèle simplement où on dit qu'entre les monomères, il y a un ressort. La loi du ressort, ça serait la constante de ressort. Et vous avez ici l'élongation de chaque ressort. Ce modèle a été traité, retraité et surtraité. J'ai dans mon bureau un livre qui a été écrit par un Japonais, alors que j'avais acheté... Enfin, c'est pas vrai, je ne l'ai pas acheté, c'est un copain qui me l'a offert, parce qu'il l'avait trouvé pour 50 centimes de dollars aux États-Unis. Et donc, il m'avait ramené ce livre-là. C'est d'un Japonais qui s'appelle Yamakawa. Ce que fait ce Japonais, c'est résoudre le modèle de Rouse avec des variables qui sont discrètes comme ça. Évidemment, une tentation, c'est de passer aux variables continues. Sur ce modèle-là, je vais vous le faire avec des variables discrètes. Yamakawa traite ça avec des grandes matrices et il vous explique par devant, par derrière, comment est-ce qu'on peut inverser des matrices comme ça, qui sont des matrices circulantes plus ou moins. Il a réussi à calculer des propriétés un peu invraisemblables avec ce modèle-là. Donc voilà les domaines, et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, hein, où ce modèle a été utilisé. Qu'est-ce qui fixe NS ? J'y arrive. Alors, ce qui fixe NS, les cellules souches dans l'intestin. Donc, c'est connu que les cellules souches, elles sont au fond des cryptes, déjà. Alors, il y a eu des bagarres assez importantes, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, sur combien de rangées de cellules souches. Alors, au fond de la crypte, les cellules ne sont pas rangées. Ce qui est à peu près admis aujourd'hui, enfin, c'est ce que dit Ben Simons, en tout cas, c'est qu'il y a 3 ou 4 rangées de cellules souches. Chaque rangée a 16 cellules souches. Et après, il y a une argumentation que je ne comprends pas très bien, qui dit que les échanges de cellules souches entre les rangées sont très rapides, et à cause de ces échanges très rapides, pour le problème des clones, ce qui compte, c'est uniquement la rangée supérieure. Donc tout ce qui est en dessous, ça s'équilibre très vite, et ça ne compte pas, et ce qui compte pour les clones, c'est la rangée supérieure. Donc en pratique, tout se passe comme s'il n'y avait que 16 cellules souches actives. Donc NS, là-dedans, c'est 16. C'est-à-dire que je peux vraiment regarder un problème à une dimension, je pourrais regarder le même problème sur une surface à 2 dimensions, il y a des cas où c'est ça qu'il faut regarder, et puis dans ce problème-là, il faut que je considère 16 cellules souches. C'est pour ça que j'ai envie de rester discret, parce que 16, ce n'est pas très grand, et donc il faut traiter le problème de façon assez précise. Donc voilà les données. Alors il faudrait aussi que je vous donne le paramètre lambda. 1 sur lambda, c'est les temps qu'il y a là-bas, donc 1 sur lambda, c'est 1 an. Pardon. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait 1 sur lambda. C'est 1 sur lambda que multiplie ns carré qui est égal à 1. Ce qui fait un facteur qui n'est pas tout à fait négligeable, hein, puisqu'il y a un facteur 256 si ns est égal à 16. Une dernière remarque sur ça, c'est que cette fonction-là, c'est un laplacien. Donc ça, c'est simplement lambda. Alors c'est un laplacien discret. Quand je vous disais que c'était un problème de diffusion, si vous regardez ça, moyennant le fait que c'est un laplacien discret, c'est vraiment une équation de diffusion. Donc ce que je vais vous résoudre, c'est une équation de diffusion que je ne fais pas dans un espace continu, mais que je fais avec des sites qui correspondent à ce modèle-là, et puis avec des conditions limites qui sont un peu spéciales, qui sont ces conditions-là. Alors, si c'est le problème est clair pour tout le monde, la méthode pour le résoudre, elle n'est pas très très originale. C'est de développer sur des fonctions propres. Donc chercher les fonctions propres du laplacien. Alors si on le fait dans un espace continu, les fonctions propres du laplacien, c'est des modes de Fourier, hein, tout le monde sait ça, on apprend ça à l'université. Ici, c'est un tout petit peu plus subtil parce que c'est un laplacien qui est discret. Ceci dit, c'est aussi des modes de Fourier. Hein, donc les fonctions propres, alors je vais l'appeler psi k de n, un facteur racine de 2 sur ns, et puis sinus Kpi n sur ns. Dans cette fonction propre-là, elle vérifie bien les conditions limites. Elle est égale à 0 ici et ici. Elle est égale à 0 debout parce que chaque fois qu'une qu'une crypte arrive de ce côté, arrive au debout, je l'enlève et je la mets dans les réservoirs. Donc il doit y en avoir zéro au debout. Je vous laisse vérifier que si vous prenez cette fonction, vous l'injectez là-dedans et il faut faire des petits bidouillages avec les fonctions sinus et cosinus de somme et de différence. Vous allez trouver qu'en appliquant cet opérateur laplacien à cette fonction-là, on trouve quelque chose qui est proportionnel à cette fonction-là avec une énergie. Alors ça, c'est le langage qu'on utiliserait en mécanique quantique ou une valeur propre, si vous préférez, epsilon k, qui est égal à 4 lambda moins 4 lambda sinus carré kpi sur 2ns. Donc ce que je prétends, c'est que si vous prenez cette fonction-là, vous l'injectez de ce côté-là, vous allez trouver que epsilon k appliqué à psi k est égal à lambda laplacien, ou c'est le laplacien discret, appliqué à psi k. Alors ces fonctions propres, elles ont toutes les propriétés qu'on a envie d'avoir hein, quand on fait de la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'elles forment un repère orthonormé. Alors c'est discret, donc c'est assez simple. Elles sont perpendiculaires et normées, orthogonales et normées. Est-ce que ça veut dire ça? Alors le produit scalaire, c'est psi k, je vais le noter comme ça, psi k prime, c'est somme sur n, psi k de n, psi k de n prime. Il faut sommer de 0 à ns, mais pour 0 à ns, ça fait 0. Alors combien il y a de fonctions psi k? Il y en a aussi a priori ns, c'est-à-dire k varie de 0 à ns, mais si vous faites k égale 0, ça fait 0. Si vous faites k égale ns, ça fait 0 aussi. Donc en pratique, il y en a ns moins 2 indépendantes. Maintenant, une fois que j'ai une base orthonormée, je peux développer la fonction pn sur cette base-là. Ça veut dire que je vais écrire que la fonction pn de t, c'est une somme d'un coefficient fois toutes ces fonctions psi k, fois l'évolution de la fonction psi k. Je vais écrire que pn de t, c'est somme sur tous les k, de 0 à ns ou de 1 à ns moins 1, comme vous voulez, c'est pareil, d'un certain coefficient ck fois psi k de n, et puis ici, il faut que je mette exponentielle moins epsilon kt. Ça veut dire que si à la santé égale 0, je pars d'une fonction psi k, elle évolue comme psi k exponentielle moins epsilon kt. C'est la même chose que ce qu'on fait en mécanique quantique, hein, quand on développe sur les états propres. La seule différence, c'est que ici, c'est une exponentielle réelle qui décroît, alors qu'en mécanique quantique, c'est une exponentielle imaginaire. Alors, ça peut paraître plus compliqué. En fait, ça va nous simplifier la vie, cette histoire-là. Après, la seule chose qui me reste à faire, c'est déterminer les coordonnées CK. Alors, comment est-ce que je détermine les coordonnées CK? Il faut que je regarde ce qui se passe à t égale 0. T égale 0, je sais que chaque clone, il n'y a pas de clone, il y a juste des cellules souches à t égale 0, je sais que chaque clone a une cellule souche. Ça veut dire que pour chaque clone, Pn est égal à 1 si n égale 1 et 0 si n est différent de 1. Ça veut dire que Pn de t égale 0. Égale delta n. Après, comment il faut faire? Il faut décomposer cette fonction delta n1 sur les mêmes fonctions propres ici, et ça va nous donner les coefficients ck. Alors en fait, bon, je ne vais pas vous le faire explicitement, je vais vous dire comment on fait. Puis après, si vous vous rappelez de vos cours de mécanique quantique, vous pouvez faire la chose. Il y a une relation entre les fonctions propres d'un opérateur comme ça, qui s'appelle la relation de fermeture. Et cette relation de fermeture, elle vous permet d'écrire les composantes de Pn de t égale 0 immédiatement. Alors je vais vous écrire le résultat final, où j'ai pris ça, et puis j'ai calculé, en utilisant la relation de fermeture, les coefficients qu'il y a là. Alors c'est Pn de t égale, donc il y a toujours ce facteur 2 sur ns, hein, qui est une espèce de normalisation, somme sur tous les k, exponentielle moins epsilon k fois t. Donc voilà la solution exacte de l'équation, avec cette condition initiale qui est vérifiée, et puis ces états-là, et les conditions au bout qui sont vérifiées, parce que j'ai dit que je voulais le faire avec des conditions absorbantes. Après, ce qui m'intéresse, c'est de calculer, et c'est ce que je vous ai montré dans les expériences, P0 et PNS. Donc P0, ça c'est la probabilité que le clone disparaisse. Alors c'est encore écrit ici, hein. C'est l'intégrale de 0 à t, de lambda. Alors c'est de 0 à t, parce que je sais que à t égale 0, comme toutes les cryptes ont un clone, la probabilité qu'elles aient 0 cellules souches est exactement égale à 0, de lambda P1. C'est facile, il suffit d'intégrer une exponentielle, donc ça va donner somme sur tous les k, 1 moins exponentielle moins epsilon kt, divisé par epsilon k. Et puis là, vous pouvez faire des bidouillages avec les fonctions géométriques. Et ce qui reste à la fin, c'est cosinus carré pi k sur 2ns. P0, cosinus carré pi sur 2ns. Et puis, on peut calculer p somme sur k, non, c'est pi k. D'accord. Puis on peut faire la même chose avec ns, donc ça c'est la probabilité qu'une crypte ait tout envahi, puisque ça veut dire que, que le clone a ns cellule chou, c'est-à-dire tous les autres ont disparu. Et donc p ns, c'est somme de 0 à t de lambda pns moins 1, je vais mettre des t primes. Alors c'est presque la même formule, c'est somme sur k de 1 moins 1 puissance k plus 1. Donc en utilisant ça, ça, et ça, j'ai absolument toutes les quantités qui sont mesurées expérimentalement. À un instant donné, j'ai la probabilité d'avoir n cellules dans une crypte. Et puis, j'ai la probabilité d'en avoir 0 et ns, qui est l'autre courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, ce n'est pas très transparent, ces choses-là, parce que y a un 2 sur ns aussi à chaque fois. Ce n'est pas très transparent parce que c'est des sommes de 0 à ns. Donc ce que je vais faire, c'est vous simplifier ça. Alors il y a deux façons de simplifier ça. Il y a une façon qui est de regarder ce qui se passe à temps très long, et puis il y a une façon qui est de regarder ce qui se passe à temps très court. Si vous regardez cette expression-là pour Pn, alors le premier terme c'est 0, mais comme il y a un sinus k ici, ça fait 0. Donc le premier terme il compte pas. C'est pour ça que je n'ai pas écrit les bornes. Vous pouvez écrire 0, vous pouvez écrire 1 si vous voulez, c'est pareil. Donc le premier terme il va être un exponentiel moins epsilon 1, t. Le deuxième, il va être en exponentielle moins epsilon 2t, mais epsilon 2 est plus grand que epsilon 1. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si je regarde à temps très long, exponentielle epsilon 2t sera beaucoup plus grand, beaucoup plus petit que exponentielle moins epsilon 1t, puis exponentielle moins epsilon 3t sera beaucoup plus petit que exponentielle moins, etc., etc. Donc, dans cette expression-là, je peux garder simplement le premier terme. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approximation de fondamental dominant. Alors ça, c'est les gens qui font des polymères, hein. Ils connaissent ça par cœur, ça marche à peu près à tous les coups dans les polymères. C'est pour ça que les polymères sont simples, parce que ce qui joue le rôle du temps, c'est la masse du polymère, et quand vous passez à la masse infinie, il n'y a plus que le epsilon 1 qui compte, et la vie devient simple. Alors ça, c'est vrai si epsilon 2, alors je vais écrire valeur absolue de epsilon 2, est très supérieure à valeur absolue de epsilon. Alors si je fais k égale 1 ou k égale 2, ns est très grand, donc ça je peux le remplacer par le carré de cette chose-là, et ça, ça vous dit que t doit être inférieur à un temps tm, l'échelle de temps c'est 1 sur lambda, quand vous prenez le carré, il y a un ns au carré qui va apparaître, donc il y a un ns au carré ici, il y a un pi 2, et même si vous faites le calcul jusqu'au bout, il y a un 3 pi 2 ici. Donc ça c'est le temps au-delà duquel on aura atteint la valeur limite, où tous les modes sont négligeables, sauf le premier. Et ça, ça va me simplifier terriblement ma formule. Ça veut dire que Pn de t, donc si t est supérieur à tm, Pn de t, c'est 2 sur ns, exponentielle moins epsilon 1t, k égale 1, donc ça fait sinus Pn sur ns, sinus pi sur ns. Donc voilà Pn de t à temps long. Il décroît exponentiellement. Il doit tendre vers 0. Il doit tendre vers 0 parce qu'à temps long, il n'y a plus qu'une seule crypte qui arrive. Donc à temps long, je sais que c'est 1 pour la crypte. C'est 1 pour P de ns et 0 pour tous les autres. Alors, après, il faut prendre ça. Il faut faire la même approximation dans P0 et P1. Dans P0 et PNS. C'est un tout petit peu plus subtil parce que j'ai deux sommes, j'en ai une avec le 1 et une avec l'exponentielle. Celle avec l'exponentielle, je peux faire la même approximation que ce que j'ai fait là. Celle avec le 1, a priori, je somme des cosinus, donc ils se ressemblent tous, et je suis obligé de sommer explicitement les cosinus. C'est une série géométrique plus ou moins, donc tout le monde y arrive, même moi. Et on trouve un résultat qui est le résultat à temps long, donc en gardant le 1 dans la série, et puis en prenant que le premier terme pour exponentielle moins epsilon k. Alors, le résultat est intéressant, et c'est ça que je vais vous montrer. Donc P0, c'est 1 moins 1 sur ns, 1 moins exponentielle moins epsilon 1t cosinus carré sur 2ns. Si vous faites tant de t vers l'infini, c'est 1 moins 1 sur ns. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, volontairement, c'était un peu faux, parce que toutes les clones vont disparaître sauf 1. Donc il y a une probabilité 1 sur ns qu'il en reste 1, c'est celui qui, à la fin, va avoir envahi tout le monde, et donc la vraie limite, c'est 1 moins 1 sur ns. Donc à t infini, c'est 1 moins 1 sur ns. Et de la même façon, on peut calculer p ns. Pour le coup, on connaît la limite, hein, puisqu'il y a un clone qui envahit toute la crypte, donc la probabilité pour chaque clone d'être celui qui envahit toute la crypte, c'est 1 sur ns. Donc c'est 1 sur ns. Alors, j'ai pas lu mon truc correctement, il y a un facteur 2 là. Facteur de 1 moins 2 fois la même chose. Il reste cette constante qu'on veut atteindre à l'infini, et ça décroît avec un temps qui est 1 sur epsilon, hein, qui est de l'ordre de grandeur du temps Tm. Donc à temps très long, ça tend vers une constante. La constante, on aurait pu la deviner. La décroissance exponentielle, on ne peut pas la deviner, mais le résultat est suffisamment simple. Donc ça, c'est ce qui se passe à temps très long. Maintenant, on peut regarder la dynamique de renouvellement à temps court. Alors là, si, comme moi, vous avez bricolé le modèle de Rouse des polymères pendant des années, vous savez ce qu'il faut faire. À temps court, il suffit de remplacer la somme par une intégrale. Ça veut dire qu'à temps court, je vais calculer Pn de t, exponentielle moins epsilon kt, sinus kpi n sur ns. Alors, si on est à temps court, n n'est pas trop grand. Ça veut dire que n sera beaucoup plus petit que ns, donc vous pouvez remplacer ces sinus simplement par ça fois ça en supprimant le sinus. Après, on peut faire le calcul explicite. Je ne vais pas vous bassiner avec ça. On trouve que Pn de t est égal, alors n... où est-ce qu'elle est ma formule ? N sur pi lambda t puissance 3 exponentielle moins n2 sur 4 lambda t. On trouve une gaussienne hein, qui est exponentielle moins x2 sur 4 fois le coefficient de diffusion fois t. Ça, c'est la signature de la diffusion. Et pour le coup, comme j'ai remplacé la somme par une intégrale, je suis passé à une variable n qui était continue. Donc on aurait pu le résoudre directement, ça, en prenant la transformée de Fourier de l'équation de diffusion. On aurait obtenu directement le même résultat. Ce qui est moins classique, c'est ce n-là. Ce n-là, il est simplement là pour assurer les conditions limites. Je veux que quand n soit égal à 0 ou ns, pn soit égal à 0. Pour n égale 0, c'est bien assuré. Pour n égale ns, comme je suis à temps court, le lambda t est beaucoup plus petit que n2 et ça tend vers 0 exponentiellement. Donc cette solution, elle est bien acceptable. Alors il y a une toute petite subtilité avec cette solution, c'est que si vous vous fatiguez à faire la somme sur tous les n de pn, c'est différent de 1. C'est-à-dire que la probabilité Pn n'est pas conservée. Alors la réponse, elle est très simple. Si je vous ai dit, je vais assurer des conditions absorbantes au bout, puis chaque fois qu'une crypte arrive au bout, je l'enlève du système. Donc si je veux avoir quelque chose pour lequel la probabilité totale est égale à 1, il faut que je prenne cette probabilité-là, que je rajoute P0 et que je rajoute P2ns, c'est-à-dire que je rajoute toutes les cryptes que j'ai enlevées parce qu'elles étaient arrivées soit à 0, soit à ns. Donc ça veut dire que P0 de t plus pns de t plus somme est égal à 1. Là, j'ai tout compté. Ce qui reste, la distribution de crypt qui reste, ce qui a disparu, et puis ce qui a été envahi par une crypte seule. Si je suis à temps court, ce terme-là est complètement négligeable. Il n'y a pratiquement rien qui arrive au bout. Hein. C'est exponentielle moins n2, donc c'est une gaussienne. Donc ce terme-là est tout petit. Et ça veut dire que ma normalisation, c'est somme de P, c'est pas dt, c'est dn. Puis après, il faut réfléchir à ce qui se fait quand on fait une expérience. Les expériences que je vous ai montrées tout à l'heure, elles comptent les clones qui existent. Elles ne comptent pas les clones qui n'existent pas. Donc si je fais une statistique sur les clones expérimentalement, c'est pas cette probabilité-là que je vais mesurer, c'est cette probabilité-là divisée par 1 moins P0, parce qu'il faut que je la normalise au fait qu'il n'y a que les cryptes entre 1 et ns qui vont être comptés. Donc la vraie probabilité, qui pourra être comparée aux expériences, divisée par 1 moins p0 de t. C'est ça que je dois mesurer exponentiellement, parce que je ne suis pas capable de compter p0, je ne peux pas compter les cryptes les clones qui ont disparu. Alors en fait, il y a un moyen de rendre cette solution sous une forme plus sympa. Le moyen, c'est de calculer la valeur moyenne de n. la valeur moyenne de m, c'est somme de pn de t fois n dt. Vous prenez ça, vous faites le calcul, et ce que vous trouvez, c'est que la valeur moyenne de n, c'est racine de pi lambda t. Et puis, au lieu d'utiliser la variable n, je vais définir une variable réduite qui sera n sur valeur moyenne de n. Je vais appeler ça x. Donc, je pars de ce p bar n, et puis je vais le transformer en un p de x, que je vais appeler p tilde de x, et il faut que j'écrive que p tilde de x dx. Donc, je fais cette transformation-là, et j'obtiens une distribution p tilde de x, exponentielle moins x2, ça c'est l'exponentielle moins n2. Le fait de diviser par la valeur moyenne, ça va nous faire disparaître la dépendance en temps ici. Et puis, il y a un coefficient numérique. Il y en a deux, même. Il y en a un devant, qui est pi sur 2. Donc ça, c'est la probabilité d'obtenir la variable x. Et ça, c'est quelque chose qui est autosimilaire. Donc je trouve, comme la dernière fois, une distribution autosimilaire. Ça, c'est un test très fort. Ça veut dire que si je me place à x constant, quel que soit le nombre n que je regarde, et quel que soit le temps que je regarde, je dois retrouver la même loi de distribution. Donc c'est ça que j'ai envie de comparer aux expériences. Ici, j'ai zéro paramètre ajustable. Je peux mesurer expérimentalement la probabilité Pn de t. Avec ça, je peux calculer expérimentalement la valeur moyenne. Je calcule la variable x. J'écris P tilde n de x. Et j'intègre pour assurer que c'est bien normé, hein, puisque j'ai normé la probabilité ici. Et en faisant ça, si c'est le bon modèle, tous les points doivent se mettre sur la même courbe. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Évidemment, ça marche parce qu'autrement, je ne vous aurais pas raconté tout ça pour un truc qui ne marche pas, mais qu'on arrive à avoir une loi auto-similaire qui marche aussi bien dans un système auto-compliqué, je trouve ça absolument merveilleux. Moi, j'ai absolument aucun scrupule à dire ça. Donc il y a plusieurs choses sur ce dessin-là. Enfin, la courbe principale, pour moi, c'est ça. Donc ça, c'est cette idée de master que je disais au début, hein, où il y aurait une cellule maître qui remplacerait les cellules souches chaque fois qu'elles disparaissent. Et puis ça, c'est le modèle qu'on vient de voir. Vous voyez ici la probabilité normée. Alors, ce qui mesure E, c'est la largeur du clone, mais quand on a normé, c'est la même distribution en fonction de la largeur réduite, en fonction de la moyenne de la largeur, qui est exactement ma variable X. Et vous voyez qu'à temps court c'est 4 semaines, alors que je vous ai dit que ce temps-là, c'était un an. Le temps Tn, je ne sais plus où il est, c'était un an. Donc on est bien à temps court devant un an. Et vous voyez que tous les points se superposent absolument sans aucune discussion. Et ça, pour moi, c'est une preuve absolument superbe que ce mécanisme-là, c'est le bon mécanisme au moins pour cet organe-là. On peut tracer la valeur moyenne. Alors, c'est pas très transparent ici, mais c'est une droite et la pente, c'est bien un demi. Alors, le problème, c'est que les axes ne sont pas forcément calibrés comme il faut, mais la pente est bien un demi. C'est explicitement écrit dans le texte. Donc, on a, pour les cellules souches de l'intestin, une démonstration expérimentale très propre que le bon mécanisme, c'est ce mécanisme de dérive neutre extrinsèque. Parce que j'ai utilisé au départ mon équation de diffusion, où la seule chose que j'ai imposée, c'est le taux de disparition par différenciation, c'était la même chose que le taux d'apparition par division cellulaire. Et ça me conduit à cet accord-là qui est à peu près parfait. Alors, il y a des choses qui sont plus expérimentales, tout ça c'est semaine 2, semaine 4, semaine 8, semaine 12, semaine 16, semaine 24, c'est la comparaison entre Pn et n à ces instants-là, et vous voyez qu'on ajuste parfaitement la courbe. Alors, si ça ne marchait pas là, ça ne marcherait pas là, c'est plutôt à l'envers. Et puis, ici, vous avez différents taux d'avancement du marquage. Ça, c'est la crypte qui a un quart marqué, ça, c'est la crypte qui a un demi, trois quarts, et complètement. Vous voyez que les probabilités tendent toutes vers zéro, sauf la crypte complètement envahie par un clone qui tend vers un, et elle tend vers un, alors on est à temps court, pour aller à 1, il faudrait aller jusqu'à mes 52 semaines, et même un peu plus loin pour que l'exponentielle ait relaxé complètement à 0. Donc le fait qu'on soit ici à une valeur qui n'est pas la valeur finale, qui serait plutôt celle-là, c'est simplement que cette loi-là, on s'attend à ce qu'elle marche à temps court, et donc on n'a pas le comportement à temps long que je vous ai donné tout à l'heure. Il nous manque encore le fait d'atteindre la relaxation exponentielle et puis de suivre la décroissance exponentielle. Alors ce modèle est extrêmement général, hein, j'ai à peine fait référence à l'intestin. On peut se poser la question de savoir s'il y a d'autres organes biologiques où ce modèle est applicable. Ben Simons et Alan Klein ont étudié un autre très en détail pour lequel ce modèle est applicable, c'est la spermatogénèse de la souris. Alors, c'est important. Alors je peux vous donner la référence, hein, je l'ai noté. Donc c'est Klein et al. Cells, Stem Cells, 2010. Ce qui m'a plu là-dedans, c'est qu'en partant d'un modèle général, on arrive à dire des choses qui sont pertinentes sur les cellules souches et des choses qui n'étaient pas du tout ce que croyaient les gens qui faisaient les expériences au départ. Le modèle auquel les gens croyaient, c'était la division asymétrique, c'est-à-dire que chaque cellule souche se divise en créant une cellule différenciée et puis une autre cellule souche. Vous avez vu que dans ce cas-là, il n'y a aucune invasion d'une crypte par un clone, et pourtant on voit bien non seulement une invasion du crypte par un clone, mais un fit parfait de la courbe expérimentale. Alors on peut généraliser ce modèle, je ne vais pas vous donner de résultat, mais je l'ai fait à une dimension. Évidemment, on peut le faire à deux dimensions ou à trois dimensions. Alors il donne les résultats théoriques, ça revient à résoudre l'équation de diffusion discrète à deux ou trois dimensions. On connaît aussi les modes propres, donc on peut arriver à faire ça. Je ne vais pas du tout faire ça, et surtout je ne connais pas de modèle biologique. Ce que je veux faire pendant le temps qui me reste, c'est vous discuter l'autre modèle de dérive neutre autonome. Alors je ne vais pas le traiter en détail. Mais... Donc le modèle de dérive neutre autonome, je vous rappelle, une cellule souche, elle a une probabilité de 50% de se différencier, elle a une probabilité de 50% de se diviser. Les divisions sont symétriques, mais elles doivent compenser statistiquement la différenciation. Il faut absolument que ce facteur-là soit 1,5. Autrement, il y aurait un problème, c'est qu'on aurait trop ou pas assez de cellules souches au bout d'un certain temps. La bonne façon de regarder ce problème-là, c'est de tracer un arbre. Donc, je pars de la cellule souche, et la cellule souche, la seule chose qu'elle peut faire, c'est se diviser. Alors, au lieu de mettre son nom de cellule souche ici, et donner le nombre de cellules qu'elles donnent après. Maintenant, ces deux cellules souches-là, elles ont deux choix. À 50%, elles se différencient, mais si elles se différencient, ça s'arrête là, parce que les cellules différenciées ne peuvent pas redonner des cellules souches. Donc ici, j'ai 0. Et puis ici, j'ai une autre cellule souche. Et puis de la même façon, cette cellule souche-là, elle peut soit se diviser, soit elle pourrait avoir 0, alors évidemment, s'il y a 0, tout s'arrête. Et puis ici, de la même façon, on peut avoir 0. Et vous voyez que si j'arrive à décrire la statistique sur cet arbre-là, j'arriverai à décrire toutes les propriétés du système. Donc ça, c'est un problème de branchement. J'ai deux branchements possibles. J'ai un branchement à deux branches ou un branchement à zéro branche avec 50% de probabilité. Alors, ces mécanismes de branchement avec un nombre de branches aléatoires, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça s'appelle le problème de branchement de bien-aimé Galton. Bien-aimé, c'était un mathématicien français, et ce à quoi il s'intéressait, c'était la disparition des patronymes. Parce que quand une femme se marie, son patronyme est un peu perdu, et quand elle a des enfants, son patronyme va être augmenté, les branches et le nombre d'enfants, donc il y a une certaine probabilité d'avoir deux enfants, zéro enfant, un enfant, trois enfants, donc c'est clairement un problème qui est relié. Et son problème à lui, je vais vous dire après comment on peut le faire, son problème à lui, parce qu'il est plus simple à résoudre que le problème qui m'intéresse ici, son problème à lui, c'est de calculer la probabilité d'extinction sur ce graphe-là. Alors ça, c'était à la fin du 19e siècle, alors Jacques m'a fait dire une bêtise tout à l'heure, Louis Bachelier, c'était en 1920. Louis Bachelier, c'était en 1920, c'était pas avant Einstein. Non, non. C'est le premier à avoir appliqué le mouvement brownien à la finance, mais c'était pas avant Einstein. Donc bien aimé, et puis après Galton et Watson ont assez raffiné ces modèles-là. Alors, il y a 6 mois, je n'avais jamais entendu parler de cette chose-là. Le premier qui m'en a parlé, c'est Edouard Anzo, et il semble que maintenant, quoi que je fasse, ce modèle ressorte. J'ai été invité à un jury de thèse récemment qui décrivait les avalanches dans les mouvements de lignes de contact. Alors quand une ligne de contact est sur une surface réelle, elle est bloquée par des défauts. Puis à un moment, la pression est trop grande, donc le défaut lâche. Et si le défaut lâche, ça relâche la pression sur les défauts qui sont derrière et ça crée une espèce d'avalanche comme il y a dans le sable. Et la statistique des avalanches, les gens, c'est Pierre Ledoussal et Alberto Rosso et leur étudiant qui s'appelle Clément Le Priol. Ils ont réussi à décrire les statistiques des avalanches en se basant sur ce modèle de branchement de bien-aimé Galton-Watson. Et les résultats sont assez convaincants. Au même jury de thèse, il y a des gens qui essayent d'appliquer ce genre d'idée pour décrire la transition vitreuse. La semaine dernière, j'ai reçu la notice biographique d'une mathématicienne qui est candidate à un poste au Collège de France. Alors, cette dame s'intéresse aux ondes sur des espaces qui sont très désordonnés, en particulier aux ondes sur des graphes. Et dans certains cas, elle ramène ça. Alors, un problème qui est légèrement plus compliqué que celui-là, et dont je ne suis pas sûr que j'arriverai à le comprendre dans le détail, mais elle explique explicitement que c'est un problème de bien-aimé Galton-Watson. Donc il y a énormément de travaux mathématiques sur le sujet et il y a plein de résultats. La seule chose qui suffit de se donner, c'est la probabilité Pn d'avoir un branchement à n branches. Alors ce que les mathématiciens aiment bien faire, et c'est souvent une bonne idée quand on fait des probabilités, au lieu de se donner ça, on se donne la fonction génératrice. La fonction génératrice, phi de S, c'est somme sur tous les n, de 0 à plus l'infini, de Pn, S à la puissance n. P de 0, c'est somme sur tous les n de Pn, mais ça doit être égal à 1, parce que la somme des probabilités est égale à 1. Donc phi de 0, c'est 1. Phi de 1, pardon. C'est 1. Et vous pouvez vous convaincre que d phi sur ds en 1, c'est la valeur moyenne de n. Alors pour mon problème, elle est super simple, parce que j'ai que soit 0, soit 2 branches. Donc pour le problème de dérive neutre, 1 plus S2 sur 2, phi de 1, c'est 1. J'ai une probabilité 1/2 d'avoir 0, et une probabilité 1/2 d'avoir 2. Donc voilà phi de S. Alors pourquoi cette probabilité est importante ? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la probabilité d'avoir nk cellules souches après k itérations de mon branchement. Donc k, ça joue le rôle du temps. Et ce que je veux, c'est p de nk. Donc on peut introduire la fonction caractéristique de nk, phi k de s. C'est somme sur tous les nk, p de nk, s puissance nk. Et ce que les gens ont montré, c'est qu'il y a une relation magique entre phi k plus 1 et phi k. Phi k plus 1, c'est phi k de phi de s. De proche en proche, comme ça, par récurrence, on peut calculer la fonction caractéristique. Et si j'ai la fonction caractéristique, en inversant, j'ai la probabilité d'avoir nk. Et comme ce machin, c'est plus ou moins une transformée de Laplace, il y a des méthodes mathématiques qui permettent de l'inverser. Donc à cause de cette relation-là, si le système est infini, on peut pratiquement tout calculer. En particulier, ce qu'on obtient, c'est que la probabilité d'extinction... Avant de parler de la probabilité d'extinction, je vais parler de la valeur moyenne. Donc, je vais appeler m la valeur moyenne, m égale à la valeur moyenne de n. Il y a un résultat qui est trivial, c'est que si m est plus grand que 1, à chaque étape, je multiplie par m, et donc ça croît exponentiellement. Donc, le nombre nk va croître exponentiellement. Si m est plus petit que 1, à chaque étape, je multiplie par un nombre plus petit que 1, donc ça décroît exponentiellement. Donc, si m supérieur à 1, nk croît exponentiellement. Et si m inférieur à 1, en gros, ce que ça vous dit, c'est que si les femmes ont beaucoup d'enfants, la population croît exponentiellement, et si les femmes ont moins de normalisé à 2 comme ça d'un enfant, ben, la population va décroître et s'éteindre. Ce que tout le monde aurait dit, je pense, on aurait dit m à la puissance n ici, et puis m à la puissance n ici. Évidemment, pour mon problème, comme je veux remplacer exactement les cellules souches, m est égal à 1, donc on est exactement dans le cas critique. Alors je vous rassure, c'est évidemment ce cas-là qui intéresse les mathématiciens, parce que là-dessus, il n'y a pas de quoi se torturer le cerveau. Il y a un moyen de trouver la probabilité d'extinction. La probabilité d'extinction, en utilisant cette relation-là, et c'est pour ça que je vous l'ai donnée, c'est le nombre S, tel que phi de S est égal à S. Pour mon problème de cellule, phi de S, c'est ça. Si je fais S égale 1, ça fait 1 plus 1 sur 2, ça fait 1. Donc ça veut dire que c'est 1. Ça veut dire que tous les clones vont s'éteindre. Alors, ce n'est pas tous les clones, c'est tous sauf un. Mais comme je travaille dans la limite où ns est infini, je ne le vois pas, celui-là. Donc, ça veut dire que le problème qui a été étudié par Klein et Ben Simons, il est plus subtil que ça, parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre la limite infinie trop tôt. Alors, ils l'ont fait un peu comme je vous ai montré dans le cas d'avant, c'est-à-dire qu'ils ont écrit des équations de récurrence pour un système fini. Et évidemment, dans leurs équations, ils trouvent bien ce qu'on s'attend, c'est-à-dire que la probabilité d'extinction, c'est 1 moins 1 sur ns, et que la probabilité de survie, c'est 1 sur ns. La valeur moyenne de n, si je me place à temps court maintenant, bon, ça m'a beaucoup amusé, cette histoire-là. Je trouve que ces arguments sont très simples, ils sont super bien expliqués dans Wikipédia. C'est-à-dire, on comprend ça, on arrive à le comprendre très bien. Après, il y a des trucs un petit peu plus subtils que... ce que je n'ai pas passé le temps d'essayer de comprendre. Mais pourquoi est-ce que phi de S doit être égal à S? Alors, je me suis dit, je vais leur raconter ça. Ça prendrait un peu de temps et je ne crois pas que ça a intérêt de le faire ici. Mais si vous vous intéressez à ces processus-là... Alors, il y a d'autres processus biologiques qui sont des processus de branchement. En particulier, donc ces processus de branchement en biologie, il y a le processus de branchement des cellules mammaires. Alors, j'ai cité celui-là parce qu'il a été étudié par Edouard Hanzo, qui est un de nos anciens thésards. Il a publié un article dans Cell en 2017, qui est un article expérimental, qui est Scheele et al. Je ne sais pas si c'est Nature ou Science, Nature. Le directeur de postdoc d'Edouard Hanzo, c'était Ben Simons. Donc le théoricien qui est derrière tout ça, c'est encore une fois Ben Simons. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un spectre d'application très très large. Donc avec Klein, Simons avait utilisé le processus de dérive neutre autonome. Ce qu'il trouve, c'est que le nombre moyen de cellules souches par clone, ce que j'avais appelé N, il est de l'ordre, c'est nombre d'AT, qui est une loi différente de ce qu'on trouve pour l'autre, où ça variait comme racine de T, et la probabilité de survie d'un clone, c'est 1 sur N, c'est 1 sur lambda T. Évidemment, la probabilité de survie tend vers 0. Elle ne tend pas tout à fait vers 0, elle tend vers 1 sur ns, parce qu'il doit en rester 1 à la fin, mais à temps court, ça décroît comme 1 sur t. Il y a aussi une loi auto-similaire. C'est-à-dire que si je définis la probabilité pn de t comme tout à l'heure, je peux définir p de x, et ça, c'est exponentielle moins x. C'est bien, parce que c'est une loi différente. Tout à l'heure, j'avais une gaussienne. Tout à l'heure, j'avais x exponentielle moins x2. Maintenant, j'ai exponentielle moins x. Ça veut dire qu'en comparant avec les expériences, je peux discriminer le mécanisme de dérive neutre autonome du mécanisme de dérive neutre extrinsèque. En particulier, si x tend vers 0, celui-là est tend vers 1, l'autre est tend vers 0. Alors, ils ont un cas où il y a une dérive neutre autonome des cellules souches. C'est l'épiderme de la souris. Et il y a un article, Clayton et al., Nature 2007. Ça, c'est le premier article de Ben Simons en biophysique. Ce garçon était physicien théoricien avant, il s'occupait d'atomes froids. Et sa femme est biologiste, et il était fasciné par ce que faisait sa femme. Et à cette époque-là, il était venu me voir, envoyé par Mike Cates, en me disant, mais comment est-ce qu'on fait pour faire de la physique sur des objets biologiques? À mon avis, c'est pas mal débrouillé depuis. C'est tout ce que je peux dire. Mais à l'époque, la discussion qu'on a eue était assez amusante. C'était à une conférence où il a passé une heure à me poser des questions dans tous les sens, et comment vous trouvez des biologistes, et comment vous trouvez des problèmes, etc. Et finalement, il a fondé tout un truc qui, moi, me paraît extrêmement bien construit, extrêmement prometteur, avec des résultats qui vont... D'abord, qui sont extrêmement clairs expérimentalement, et ensuite, qui vont un peu dans la direction opposée de ce que disaient les biologistes à l'époque, qui était qu'il y avait une cellule souche qui se différenciait et que chaque clone restait vivant sur toute la suite. Et il a beaucoup travaillé, par exemple, avec M. Clevers, dont je parlais au début. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous ai parlé de la taille des tissus au premier cours, je vous ai parlé des cellules souches. Dans les quatre cours qui restent, je vais vous parler de mécanique des tissus. La prochaine fois, je vous parlerai de sphéroïdes. Et donc, il n'y a pas de séminaire aujourd'hui, parce qu'il a été annulé avant-hier. Voilà, je vous remercie.